Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.
Record mondial pour un tableau d'Eugène Delacroix, vendu aujourd'hui de plus de 50 millions de francs à Drouot. Choc de cavaliers arabes, c'est son nom, témoigne de l'éblouissement du peintre romantique lors de son voyage au Maroc. Cette toile, qui date de 1832, avait été estimée dans un premier temps à 12 millions de francs, soit le quart du prix par l'étude qui la vendait. Richard Tripot et Marc Félix ont assisté à ce grand moment.
Il était estimé entre 8 et 12 millions de francs. Ce choc de cavaliers arabes, peint en 1832 par Delacroix, n'était quasiment jamais sorti de la famille qui l'avait acheté en 1888. Sa vente aujourd'hui s'annonçait comme un événement, elle le fut. Mis à prix 500 000 francs, en quelques instants, il atteignait des sommets.
46 500 000, pas au fond, pas à gauche. On annonce à 46 500 000. J'adjuge. Adjugé 46 500 000.
L'imaginaire européen autour de la Tzboreda a été forgé par Eugène Delacroix. Et Eugène Delacroix est un peintre majeur dans l'histoire de l'art. Voilà comment il est décrit par le magazine Beaux-Arts. Chef de file du romantisme français, Eugène Delacroix est l'un des premiers à traiter au même titre que la mythologie ou les épisodes de l'Antiquité des événements contemporains à travers le genre noble de la peinture d'histoire. Romantique, il l'est par sa palette, mais aussi par son goût pour le mouvement, l'arabesque, les compositions non symétriques. Dans ses œuvres, Eugène Delacroix n'hésite pas à exprimer des opinions politiques. Il est aussi l'un des grands noms de l'orientalisme qui traverse tout le XIXe siècle. On doit à Delacroix quelques-unes des plus grandes pages de la peinture française de cette époque.
Il est le peintre romantique par excellence quand ce bourgeois casanier découvre en 1832 le Maroc. C'est le choc de sa vie. L'Institut du monde arabe à Paris consacre à Delacroix une très grande exposition. Isabelle Thomas, Philippe Basquin.
L'Orient rêvé, 1832, l'époque consacrée Rome, Delacroix accoste à Tanger. Le peintre accompagne le comte de Mornay, dépêché auprès du sultan par le roi Louis-Philippe. La délégation devait prendre quelques semaines au plus, elle durera 6 mois. À cause du ramadan d'une part et de la diplomatie de l'autre. L'époque n'est pas aux expéditions touristiques en terre marocaine. La France prend pied en Algérie et tout étranger est regardé avec méfiance sur cette terre voisine.
Au moment où Eugène Delacroix accompagne l'ambassadeur de France à la cour du sultan du Maroc, à Meknès, donc il accompagne le comte de la Mornay, qui a pour but de négocier les frontières entre l'Algérie qui est en train d'être conquérie par la France et l'Empire du Maroc, comme on disait alors en France.
Mehdi Rouirguet, maître de conférence à l'Université de Bordeaux.
Eugène Delacroix accompagne alors l'ambassadeur, mais à titre privé. D'ailleurs, il paye lui-même de sa poche les frais entraînés par ce voyage et il n'est nullement mandaté par l'autorité politique, comme ça a été par exemple le cas d'un certain nombre de peintres au moment où les Français ont débarqué à Alger lors de l'été 1830.
Le peintre lui-même est venu avec beaucoup de fantaisie dans sa tête. Il va découvrir cet Orient imaginaire, même s'il ne s'agit pas de l'Orient. Donc déjà dans sa tête, elle est en pleine fantaisie.
Mustapha Kaderi, professeur d'histoire à l'université de Rabat.
Ensuite, comme il dit lui-même, il était ébloui par les lumières. Oui, c'est une question d'angle. Et de saison également, il y a de quoi. Ensuite, il est ébloui par la démonstration que fait cette délégation marocaine qui sort de la ville de Meknès pour recevoir cette délégation française qui arrive avant d'arriver à la ville et de se présenter au sultan le lendemain. Ensuite, il est ébloui par le cérémonial. On a la photo du sultan Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. Il a immortalisé le moment avec son parasol, son cheval, ses serviteurs tout autour et les gens qui du Marzen, comme on les appelle, avec leurs habits, comme il s'habillait à l'époque. Donc, pour un peintre, au moment, comment dirais-je, du début d'une expansion européenne, certains pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons politiques, et voilà la peinture qui se greffe à cela pour nous créer carrément une école. Alors, la fantaisie du cheval, de l'indigène, de la femme nue, du harim, l'odalisque, c'est toute une série de sujets qui sont liés à cette peinture européenne fantaisiste qui fait de la fantaisie un élément fondamental dans la création. Et d'ailleurs, Delacroix, quand il est arrivé, il n'avait fait que des croquis. C'est une fois qu'il est arrivé en France qu'il a dessiné ses tableaux, c'est-à-dire sur une période de 20 ans. Hein. Il n'a pas dessiné le tout d'un coup, mais selon les commandes ou ses propres fantaisies, il reprenait ses croquis de ce qu'il avait observé dans la ville de Meknès pendant son séjour en 1832.
Et qui est Delacroix au moment où il débarque en 1832 au Maroc? Il a déjà peint son plus célèbre tableau, son œuvre monumentale, La liberté guidant le peuple, qui a longtemps orné les billets de banque. En 1832, Eugène Delacroix est tout sauf un inconnu.
C'est donc un peintre, un artiste confirmé, reconnu, mais qui est en recherche d'un nouvel élan créatif, une nouvelle dynamique où il ambitionne de se réinventer. Et c'est précisément le voyage au Maroc qui va lui donner l'occasion, eh bien, de donner un tour nouveau à sa peinture, à son art.
Clin d'œil à l'histoire, cette toile qui vient de battre le record de vente pour un Delacroix avait été refusée au Salon des Indépendants en 1834. Belle revanche pour un artiste dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance.
Maintenant, il faut se poser la question. Que sait Eugène Delacroix du Maroc? Qu'est-ce qu'il connaît de notre pays quand il débarque? Et qu'est-ce qu'il y cherche?
Depuis le XVIIe siècle, et plus précisément depuis le règne de Moulay Smaïl, donc on est à partir de 1672, le Maroc est perçu dans l'imaginaire collectif européen comme une sorte de double négatif. Valeur versus anti-valeur. Toutefois, à partir du XIXe siècle, moment où l'Europe est en passe de conquérir et de dominer le monde, ce que l'on désigne généralement sous la forme d'inexorable Occident, le voyage au Maroc prend une tout autre signification. En effet, à partir de ce moment-là, dans une Europe où le rythme de la modernisation s'accélère, où la vitesse devient reine et où la bourgeoisie s'empare du pouvoir, on date ça précisément en France de 1830 et de la monarchie de Juillet, hein, il est certain que le voyage en direction, entre guillemets, de l'Orient, lequel Orient commence à partir de l'Espagne et des Pyrénées, véritable vestibule de l'Orient, le but du voyage en Orient étant, à ce moment-là, de se découvrir à soi-même, hein, à partir de l'impératif bien connu chez les Grecs et qui figurait sur le frontispice du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Et évidemment, c'est dans ce cadre-là plus global, dans ce contexte, qu'il faut replacer le voyage d'Eugène Delacroix au Maroc. Voyage effectué donc en 1832.
Et c'est lui, paraît-il, qui donne ce mot de fantasia, parce que justement, avant d'arriver à Meknès, on leur envoie une délégation pour les recevoir, et bien sûr, il y avait cette Tborida qui faisait la démonstration de force devant eux. Au début, la délégation, il avait l'air un peu impressionné même, il avait peur, sauf que quelqu'un qui était dans la légation française à Tanger, qui était sur place, il leur a dit ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une fantaisie, et que peut-être, à ce moment-là, Delacroix avait chopé le mot pour dire donner le nom Fantasia, il nous dessinait le cheval sous toutes ses coutures, surtout ce fameux cheval barbe qui est associé à cette Tborida. Donc à partir de ce moment-là, c'est une sorte de découverte, mais à travers l'histoire, le cheval barbe qui était semé au Dabad et à l'Afrique du Nord, il a fait toujours l'objet d'offrandes ou de cadeaux. Et quand des délégations venaient ou des ambassadeurs de chez nous partaient en Europe, il était très prisé en Europe et il faisait partie des cadeaux que les sultans envoyés à leurs homologues européens. Donc ce cheval, il a toujours gardé une place particulière dans l'imaginaire européen jusqu'à ce que ce peintre Delacroix arrive et l'immortalise dans ses tableaux et le booste un petit peu dans l'histoire de la peinture.
Dans ce contexte, il apparaît dans ses dessins, dans ses croquis, qui cherche, qui ambitionne de saisir le moment. Chaque moment vécu est d'une extrême intensité pour lui, et donc il a voulu, à l'aide de carnets, on en comptabilise 6 et peut-être 7 en tout et pour tout.
Ces carnets de voyage qui ne le quittent pas témoignent de son insatiable sens de l'observation. Journaux intimes, ces notes jetées à la hâte, parfois sans même descendre de cheval, sont très loin de l'art classique dont il est issu.
Évidemment, le cheval est central, car c'est le cheval, ou plus exactement le rapport qu'entretiennent les Marocains au coursier, au destrier, au cheval, qui permet de caractériser et de souligner, et les deux sont indissociables, l'antiquité et la noblesse des Marocains. Ce sont les mots même qu'emploie Eugène Delacroix dans ses carnets, et pratiquement nous n'avons pas une seule page de ses carnets où le cheval n'est pas évoqué, où un cheval n'apparaît pas en croquis, et on pense généralement que c'est bien plus tard, lorsqu'il séjournera à Toulon, où il s'ennuiera quelque peu, qu'il va peindre la fameuse Fantasia qui a pour décor la porte de Bab el-Mansour ou Bab el-Elj à Meknès. On pourra ainsi retenir, garder à l'esprit que le cheval, encore une fois, sert à mettre en évidence, à mettre en lumière, et c'est le cas de le dire, le caractère ancien et noble des Marocains, qui n'ont pas, contrairement à la France, contrairement à l'Europe, contrairement à l'Occident, abdiquer leur capacité à se défendre, à faire la guerre, et donc d'une certaine manière les Marocains entretiennent très lointainement l'esprit de la chevalerie.
Les carnets d'Eugène Delacroix, c'est un millier de dessins, où il multiplie les croquis avec comme pour objectif de saisir le sublime vivant et frappant qui court ici dans les rues et vous assassine de sa réalité. C'est comme ça qu'il a décrit le Maroc dans une lettre écrite lors de son voyage. Et puisque je cite Delacroix, voilà comment il explique en 1853 pourquoi il a attendu presque 20 ans pour passer des croquis des carnets à la toile finale. Je n'ai commencé à faire quelque chose de passable de mon voyage d'Afrique qu'au moment où j'avais assez oublié les petits détails pour ne me rappeler dans mes tableaux que des côtés frappants et poétiques. Jusque-là, j'étais poursuivi par l'amour de l'exactitude que le plus grand nombre prend pour la vérité.
Il faut en effet bien comprendre que le spleen, la dépression est le mal du siècle, et le mal du 19e siècle. Ce n'est pas du tout un hasard si Eugène Delacroix a entretenu des liens plus ou moins étroits avec Baudelaire, le poète par excellence du spleen, et évidemment le cheval, dans ses moments de passage à vide, lui permet de se remémorer ces moments de grande intensité où il pouvait croquer la vie à pleines dents, évidemment se saisir de l'instant présent, réaliser ce que les Grecs désignaient comme étant le kairos, c'est-à-dire cette capacité à se saisir du moment présent, lequel est lié à une forme d'action. Donc, inversement, le spleen, vous voyez bien, a son remède dans l'action, dans le mouvement, dans le voyage vers l'exotisme. Et le cheval, encore une fois, est un moyen, et sans doute le moyen par excellence pour Eugène Delacroix, pour dire quelque chose, pour renseigner sur ce voyage au Maroc et sur cette altérité radicale que constitue alors ce royaume. Il n'arrête pas, que ce soit dans ses carnets ou ultérieurement dans ses aquarelles, dans sa peinture, de représenter deux animaux. Ces deux animaux, ce sont d'une part le cheval et d'autre part le lion. Les deux ont ce point commun de représenter la force, la liberté, la fougue, autant de caractéristiques que Eugène Delacroix associe fortement au Maroc, hein, qui est l'expression réalisée de toutes les qualités, de toutes les caractéristiques de ces animaux, cheval et lion, lion et cheval. Et bien entendu, c'est ce qui va rendre Eugène Delacroix quasiment irrésistible, plus que digne d'intérêt. C'est véritablement une fascination qui va s'exercer autour de ce personnage. Et évidemment, c'est sa capacité à s'affranchir des autorités du passé, à les rendre complètement surannées, qui va fasciner des générations de romantiques, à commencer par les peintres, mais c'est vrai aussi des poètes, comme par exemple Baudelaire. Il est certain qu'au XIXe siècle, Eugène Delacroix a été érigé en modèle quasi insurmontable dans la mesure où il représente un idéal qu'il a en partie accompli, réalisé grâce à son voyage au Maroc. Ce modèle d'artiste accompli, eh bien, est à ce point prégnant, est à ce point prépondérant que lorsque Henri Matisse, le peintre français célèbre, s'installe au Maroc, et plus précisément à Tanger, il est obligé de préciser qu'il n'est pas Eugène Delacroix, avec l'idée derrière de dépasser un modèle indépassable, ou très difficilement dépassable. Vous avez le cas, par exemple, du peintre Fortuny, donc le peintre catalan, très célèbre, qui, lorsqu'il vient au Maroc, cherche par tous les moyens à imiter tout en dépassant le maître Eugène Delacroix. Et donc, évidemment, il y a l'idée, on n'a qu'à voir le nombre d'expositions qui sont consacrées à Eugène Delacroix et à son voyage au Maroc, ou bien encore le nombre de livres d'ouvrages d'art qui lui sont dédiés. Effectivement, on peut prendre la mesure de l'importance de ce voyage au Maroc d'Eugène Delacroix. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'est le cheval qui représente l'ensemble. Une sorte de métonymie, hein, donc le vers, le contenu qui représente le contenant. Car le cheval, encore une fois, hein, c'est l'incarnation des qualités premières du Maroc en tant que pays et aussi en tant que peuple, c'est-à-dire la fougue, le caractère indomptable. Hein, et évidemment, c'est cela qui n'a pas cessé depuis de fasciner.
Vous voulez un exemple de cette fascination ? Voici un texte de Pierre Loti qui, à son tour, vient au Maroc en 1890 et qui écrit ceci. Vers 10 heures, sous le ciel toujours gris, dans la campagne toujours verte et sauvage, nous apercevons là-bas, devant nous, une ligne immobile de bonhommes à cheval, postée pour nous attendre. On s'approche et brusquement, à un signal, à un commandement jeté d'une voix rauque, tout cela se disperse et sème comme un vol d'abeilles, gambade avec des cliquets d'armes en poussant des cris. Leurs chevaux éperonnés se cabrent, sautent, galopent comme des gazelles effarées, queue au vent, crinière au vent, bondissant sur les rochers, sur les pierres. Et du même coup, les vieilles poupées ont pris vie, sont devenues superbes aussi, sont devenues des hommes sveltes et agiles, à beaux visages farouches, debout sur des grands étriers argentés. Et tous les burnous blancs qui les empaquetaient se sont envolés, flottant maintenant avec une grâce exquise, découvrant des robes de dessous en drap rouge, en drap orange, en drap vert, et des selles qui ont des tapis de soie rose, de soie jaune ou de soie bleue à broderie d'or. Et les beaux bras nus des cavaliers, fauves comme du bronze, sortent des manches larges relevées jusqu'aux épaules, brandissant en l'air pendant la course folle les longs fusils de cuivre qui semblent devenus légers comme des roseaux.
Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.